France Inter. Mathilde Munoz.
Il est 6h22, le monde associatif inquiet pour son avenir face aux restrictions budgétaires en tout genre. Les subventions se réduisent comme peau de chagrin, surtout de la part des collectivités locales. Et de nombreuses structures risquent de disparaître. Une association sur trois est contrainte de réduire ses effectifs. Un exemple concret ce matin avec notre invité. Bonjour Elsa Dacosta.
Bonjour Mathilde Munoz.
Vous êtes la directrice générale d'Ashoka France. C'est un réseau d'entrepreneurs sociaux. Une ONG qui existe depuis 45 ans dans le monde, 20 ans en France. Vous avez d'ailleurs fêté cette année anniversaire hier soir. Est-ce que vous craignez de ne pas fêter les prochains ? Est-ce que vous aussi vous pourriez mettre la clé sous la porte ?
Alors nous concrètement, non, nous ne pourrions pas mettre la clé sous la porte pour la bonne et simple raison que dans notre doxa, nous ne touchons pas de subventions publiques. En revanche, les 86 entrepreneurs sociaux que nous accompagnons chaque année, eux, oui. Donc le danger est majeur pour les concernants.
Parce que comment vous travaillez exactement au sein d'Ashoka ?
Alors Ashoka, c'est une organisation qui a pour but d'identifier, d'accompagner, de structurer des entrepreneurs sociaux. Alors peut-être qu'entrepreneurs sociaux, ça paraît assez abscon, voire être un oxymore. On a l'impression qu'un entrepreneur ne peut pas être social, alors que pour nous, ça devrait être la norme aujourd'hui. Donc un entrepreneur social, c'est un entrepreneur qui va s'attaquer à un problème de société et qui va faire en sorte de le résoudre parce qu'il estime que la réponse qui est apportée aujourd'hui par l'État n'est pas suffisante. Donc lui, pour le coup, son financement est souvent public, également privé, donc il est contraint évidemment d'aller chercher ses subventions et quand elles sont en train de se réduire à peau de chagrin, il a un vrai danger de viabilité et donc d'assurer cette réponse sociale qui est souvent une délégation de service public.
Et donc vous aidez quel genre de d'entrepreneurs sociaux vous ?
Alors si je vous dis service civique, j'imagine
ouais,
que ça
sûr.
Vous parle Mathilde Munoz, ben voilà l'association Unicité qui existe depuis près de 30 ans et qui est à l'origine de l'inspiration de la politique de service public fait partie des entrepreneurs sociaux que nous avons identifiés il y a déjà une bonne vingtaine d'années en fait, dès le démarrage d'Ashoka en France.
Et donc vous les aidez financièrement ou juste de manière logistique, d'organisation ?
Les deux, en fait. Au démarrage, quand ils sont identifiés, ils sont accompagnés pendant près de 3 ans financièrement, sous forme de bourse. Et ensuite, ils restent à vie dans notre réseau où ils bénéficient de tout un tas d'immatériels, notamment de partenaires qui viennent les mentorer pour structurer et faire en sorte qu'ils soient viables et les accompagner dans leur levée de fonds, notamment auprès de la puissance publique.
Et vous n'avez pas de problème d'argent ?
Ah bah on a toujours des problèmes d'argent, bien évidemment, parce que c'est pas parce qu'on ne dépend pas de subventions publiques qu'on n'a pas de problématique de contraction de financement de la philanthropie en elle-même.
Vous, c'est les dons ?
Oui, les dons et les entreprises également qui nous aident et qui nous accompagnent pour structurer notre société.
Et là aussi, ça se contracte ?
Là aussi, ça se contracte parce qu'en fait, aujourd'hui, le système associatif, il est pris un peu en étau, déjà notamment par cette fameuse contraction de puissance publique, mais aussi par le fait que la philanthropie est attaquée d'un point de vue fiscalité. On entend dire dans les couloirs qu'il serait envisagé de réduire notamment la défiscalisation qui est autorisée pour l'impôt sur les fortunes immobilières, passant de 76% à 66% aujourd'hui. Donc ce qui veut dire matériellement parlant, en termes de volumétrie de dons, une réduction, donc forcément un choix et un tri que vont être obligés de faire les philanthropes au détriment justement des associations qui avant bénéficiaient de ces dons-là.
Et concrètement, ça se traduit comment à la fois pour vous et pour les associations que vous aidez ?
Vous imaginez les conséquences immédiates. Quand vous avez un budget qui est réduit, ça a déjà forcément une action sur vos propres initiatives. Donc vous les réduisez, vous faites des choix.
Donc il y en a moins. C'est pas vous donner moins à chacune, c'est vous en supprimer certaines.
Alors nous, on ne donne pas moins, simplement elles derrière, elles ont des problématiques de choix de programme qu'elles vont peut-être en fait diminuer, ça c'est la première chose. Nous concrètement, Ashoka, c'est pas qu'on finance moins d'associations, c'est que nous, dans notre action qui est non seulement de financer des associations, mais aussi d'avoir nous-mêmes des programmes en propre, on va faire le choix d'avoir moins de programmes en propre nous-mêmes, notamment à destination des jeunesses, puisqu'on incapacite énormément les jeunesses pour qu'elles deviennent actrices de changement, pour être au bénéfice de nos entrepreneurs sociaux et assurer ceux qui sont déjà sur le terrain. En fait, plutôt que de créer des choses nouvelles, on va essayer de structurer et de financer toujours celles qui sont là.
Et des plans sociaux, il y en a aussi ?
Au sein des associations, oui, on l'entend évidemment auprès des 86 fellow Ashoka qu'on entend, effectivement, oui, mais ça a toujours été le cas. C'est majeur en ce moment parce qu'il y a une accélération, si vous voulez, de cette problématique-là. La réalité, c'est qu'il y a toujours une précarité aussi assez forte du milieu associatif, quel qu'il soit. Là, ça s'accélère clairement.
Et cette précarité, ce qui est encore plus compliqué, c'est qu'elle arrive à un moment où il y a aussi de plus en plus de personnes vulnérables qui sollicitent justement le monde associatif.
Exactement. En fait, si vous voulez, c'est l'interconnexion des phénomènes qui apparaissent aujourd'hui. On le voit bien et qui s'accélère aussi forcément par la dette publique de l'État, qui a des choix à faire. Et comme on pâtit, je dirais, d'une forme de délit de faciès, de finalement, à quoi ça sert une association en réalité ? Est-ce que c'est pas simplement juste au crochet de l'État ? Qu'est-ce que ça apporte en vrai dans la société ? Et comme jusqu'à présent, ça donnait une impression d'un vœu pieux de soutien des associations, bien, on est obligé d'encore plus prouver, de légitimer, de structurer et d'être presque un peu des mathématiciens pour justement montrer que notre action elle a une valeur concrète.
Investir de l'argent dans une association, c'est pas de l'argent perdu.
Non, Mathilde, ce n'est pas de l'argent perdu, bien au contraire, puisqu'un euro investi dans le milieu associatif, c'est souvent 3 à 4 euros de diminution sur la facture sociale.
Et comment c'est possible ? Comment ça se traduit exactement ?
Ah bah, je vais vous donner un exemple assez concret. Je prends Label Vie. Label Vie, c'est un label d'écolo-crèche qui fait en sorte en fait, de former des personnels de crèche à une meilleure gestion environnementale, tout simplement, de leurs actions. Donc ça veut dire que, un, ils forment les personnels de crèche à bien comprendre ces enjeux-là. La crèche en fait se dote en fait d'alimentations qui vont être bio, réduit ses factures d'électricité, utilise des produits ménagers qui sont moins néfastes en fait pour la planète, et les chiffres sont assez éloquents parce qu'on va jusqu'à 83% de réduction sur la facture d'électricité, 57% de réduction d'absentéisme, donc ça donne aussi une valeur assez forte en termes de lien social.
Donc investir de l'argent dans une association, non seulement ça a du sens, mais en plus ça permet de gagner de l'argent, c'est ça ?
Exactement.
De faire gagner de l'argent.
C'est-à-dire qu'on parle souvent de fracture sociale. Et là, moi, je parle d'une diminution de la facture sociale aussi.
Merci Elsa Da Costa, directrice générale d'Ashoka France. Vous étiez l'invitée du 5-7.